Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Bonsoir, Michel Philippot, heureux de vous retrouver sur Bretagne 5, la plume est à vous. Avec ce soir, une nouvelle de Manuel Bonneau, un auteur dont nous avons déjà pu apprécier il y a quelques semaines, un premier texte, La navale vivra. Ce soir, Manuel Bonneau nous entraîne sur les sombres chemins d'une petite ville de province, jamais autrement nommée que par son initiale, P, suivi réglementairement de ces trois points de suspension, pour ne pas dire ces trois points de suspicion. Une petite ville emblématique où règne méfiance et délation dans un climat politique délétère qui ne manquera pas de faire écho à une histoire avec un grand H, toujours prête hélas à se répéter. Sans plus attendre, je vous invite à découvrir, je cite l'auteur, ce qu'il advint possiblement dans la bonne ville de P, sous-titre à la nouvelle « Un pacte ». Bien qu'il soit difficile de pénétrer une communauté établie et jalouse de son entre-soi, on avait fini par venir chez M. Théophane Cornix, tant par nécessité que par habitude. Une habitude qui, on s'en doute, fut mal aisée à prendre. Quand il s'était installé, les bonnes langues du pays lui avaient promis des jours difficiles. Toutefois, comme il offrait un service sérieux et appréciable, les gens prirent le pli. Son échoppe se trouvait dans la seconde moitié de la rue du 30 septembre au cœur de la vieille ville. Dès son arrivée, il avait nettoyé la façade, non sans mal, et repeint les boiseries, organisant sa vitrine avec goût autour des livres qu'il vendait. Il en avait partout, dans la boutique étroite et longue, aux murs ceints d'étagères patinées. Dans cet espace contraint, au parquet blond mangé par les piétinements, de vénérables gondoles traçaient un labyrinthe ponctué d'in-quarto, d'ouvrages pleines pots, d'opuscules à compte d'auteur et de livres usuels. Il y proposait des titres neufs, mais surtout des volumes ayant déjà vécu. Tous était en bon état, car il semblait que les livres défraîchis trouvaient une seconde vie entre ses mains. Tout portait à croire qu'il avait fait un métier de sa passion. L'enseigne, noire et blanche, était laconique. Elle disait sobrement « librairie, occasion, livre rare ». Nulle mention du nom du propriétaire. Dans les premiers temps, on le désigna sous le terme consensuel du « nouveau » et moins rarement encore sous celui de « l'étranger », ce qui indiquait assez bien la nature acérée des dites bonnes langues. D'abord très virulentes, celles-ci se turent lorsque, passés quelques mois, il commença de faire partie du paysage. Nul doute qu'elles avaient trouvé un autre champ d'expression et puis la boutique devenait bien achalandée. La curiosité des premiers temps s'était émoussée, laissant place aux connaisseurs, aux amateurs et aux étudiants de l'université provinciale. Il faut dire que dans la bonne ville de P, une échoppe comme la sienne était une aubaine et les distractions manquaient tellement. On comprend d'autant mieux que son installation ait fait couler beaucoup de salive. Lui parlait peu. Oh non qu'il fût discourtois, c'était chez lui plutôt une sorte de pudeur naturelle, une forme de réserve très digne, un peu de méfiance aussi. Il disait ce qu'il fallait, évitant de répondre aux interrogations trop directes. On ne lui posa bientôt plus de questions. dans les grandes villes comme dans les petits bourgs, quand on ne peut se renseigner à la source, on invente, on brode. Natura humanum aboret vacuum. La nature de l'homme déteste le vide. Alors, on glosa beaucoup. On lança des rumeurs, on énonça des avis, on pérora. Les rumeurs s'enflèrent, les avis s'enflammèrent et les péroraisons attisèrent le tout. De grands esprits crurent remarquer que notre homme recevait. S'il s'était agi de gens du pays, l'affaire eût été vite réglée. La sagesse populaire aurait tissé un conte probable, quoique moins excitant. Or, il s'agissait d'inconnus. On nota que deux fois par mois, il fermait boutique une heure plus tôt, sans autre explication qu'un vague écriteau accroché à la porte. C'est là qu'en tout début de soirée, des hommes bien mis, quoique strictement vêtus de gabardines sombres, le visitaient. On dit de manière certaine que la première fois fut une nuit de pleine lune, et on soutint le contraire. Des gens bien informés jurèrent que ces hommes s'entouraient d'un luxe de précautions, laissant à penser qu'ils avaient des choses à cacher, sûrement des trafiquants. D'aucuns dirent que cela sentait le complot et qu'en s'étant troublé, ce ne pouvait être que des contre-révolutionnaires. D'autres y virent la marque d'une confrérie secrète. Des quidam affirmèrent qu'il s'agissait de saboteurs, d'espions à la solde des puissances étrangères. Dans l'opinion, la thèse de la subversion faisait floresse comme d'habitude et la plupart disaient n'importe quoi. Certains des invités venaient de la gare à pied, traversant le centre-ville d'un pas décidé. D'autres possédaient des voitures. Les derniers prenaient un taxi. Très vite, lorsque la rumeur prit une trop grande ampleur, les premiers firent de même, négligeant de marcher dans les rues qui pourraient leur être hostiles. Ils venaient seuls, en général, parfois à deux, mais jamais plus de trois ensemble. Quand ils arrivaient devant la boutique, ils frappaient à la porte du logement de fonction qui lui était contigu. Certains curieux se persuadèrent qu'ils s'annonçaient toujours de la même façon. Après qu'ils avaient cogné à lui, ils manœuvraient le Judas. On croyait alors que les hommes, un à un, murmuraient quelques mots, sûrement un code, ou pire, un blasphème. On pensait savoir que c'était à cette seule condition que le libraire ouvrait la porte et les laissait entrer. Le nombre des invités variait, mais semblait être compris entre une quinzaine et une vingtaine. Ces hommes n'arrivaient jamais plus d'une heure après la fermeture et repartaient ensemble, qui en voiture, qui en train, au dernier départ pour le lendemain, en ouvrant sa boutique, M. Cornix faisait comme si la soirée de la veille avait été ordinaire. Peut-être l'était-elle d'ailleurs, car nous n'avons pas pu relever d'éléments dans la ville de P qui abonderaient en ce sens ou en un autre. Toutefois, il convient de dire qu'à cette époque, c'était une petite ville bourgeoise et assez austère. La moindre excentricité aiguisait la curiosité des oisifs et des notables. Ça donnait un sujet de consensus. On se retrouvait autour de cette nouvelle idée que, décidément, ce Cornix était étrange. Son activité de libraire en faisait, pour certains, un libre penseur, un esprit fort. Pour d'autres, l'étrangeté de son comportement, associée avec son métier, était sans doute possible la marque d'un libertaire, voire d'un anarchiste. De là à imaginer qu'il était en dissidence avec le pouvoir, il n'y avait qu'un pas que ces braves gens n'hésitèrent pas à franchir avant longtemps. C'était clair. Le libraire ne pouvait pas être accoquiné avec des voyous. Non, ça ne collait pas. En revanche, les beaux messieurs qu'il recevait ne pouvaient manquer d'ourdir de sombres desseins. Le docteur Kreutz, qui s'était déjà signalé par des prises de positions audacieuses, tenta de calmer les esprits, de laisser entrer un peu de raison dans ses discours pusillanimes. Mais comme il avait échoué à briguer la prime magistrature, en partie à cause de l'audace de ses idées, ses avis étaient rejetés sans discussion. Monsieur Kreutz, il faut le dire, était trop pragmatique, et les gens causèrent. Monsieur Cornix s'en doutait, mais laissa faire. Au juste, il ne pouvait pas empêcher la sagesse populaire de statuer. On peut se figurer que la suite des événements aurait été tout autre si le libraire avait fait quelques concessions sociales. Dans une petite ville, ce genre de choses revêt une grande importance, mais Monsieur Cornix n'y prêtait guère attention. Les braves gens avaient pour ordinaire de se réunir entre bonnes gens. Par son activité, M. Cornix était membre de droit de cette petite société. Mais ça ne l'intéressait pas. Oh, bien sûr, il avait souscrit une patente à la guilde de négoce comme les lois marchandes l'imposaient. Mais il avait fait comprendre aux représentants qu'outre ses obligations légales, il souhaitait qu'on le laissât en paix. Cela avait choqué, et on ne manquera pas d'y voir une des sources de la défiance qu'il inspirait. Monsieur Cornix ne changea rien à ses habitudes. Le docteur Kreutz, qui connaissait bien les âmes en général et ses concitoyens en particulier, prit sur lui d'initier une médiation auprès du libraire. Aimablement, Cornix promit qu'il se montrerait encore plus discret. Environ 6 mois après son installation, une série d'attentats particulièrement sordides secoua la morne tranquillité de la région de P. Des garnisons, des bâtiments officiels, tous les symboles de l'autorité en étaient la cible. Sur ordre, les officines de propagande lancèrent une campagne sans précédent. Dans le même temps, les milices dirigèrent une vigoureuse répression. Partout, la police d'État placardait des affiches dénonçant le terrorisme sanguinaire et appelant à la délation. Les nouvelles étaient filtrées. Cependant, il se murmurait qu'ici ou là, Des groupes de rébellion se constituaient, même si le terme de groupuscule terroriste était préconisé. Ce fut l'acte de naissance de la résistance. Les mouvements disparates au début de la prise en main du pays s'organisaient désormais en réseau. Très schématiquement, trois camps se dessinaient. Les collaborateurs, les résistants et les attentistes. De loin les plus nombreux. Dans la ville de P, M. Kornitz fut l'un des seuls à ne pas apposer les affiches. Ses confrères de la guilde, déjà méfiants, n'attendirent pas le conseil de trimestre pour lui faire part de leur inquiétude. Ils se rendirent en délégation à sa boutique au lendemain d'une de ses réunions. Il n'était pas venu seul. Le sous-commissaire rapporteur, représentant plénipotentiaire, les accompagnait. Ils lui parlèrent des on-dit du pays, lui rappelèrent les lois d'exception sur les associations et l'enjoignirent à se conformer strictement, désormais, aux préceptes de la guilde de négoce. C'était une menace à peine voilée. Cependant, M. Kornitz ne pouvait difficilement se passer de sa patente. Il était également exclu qu'il se signale aux services régionaux du gouvernement central. Aussi se montra-t-il prudent. Il obéit aux injonctions du sous-commissaire rapporteur et se soumit à une perquisition en règle de sa boutique et de son domicile. Ses livres de compte furent épluchés, on enquêta sur les raisons qui le poussèrent à quitter la ville de B, où il s'était livré aux mêmes activités. On ne découvrit rien. Mais on s'acharna. Afin de calmer les esprits, le libraire accepta d'apposer les proclamations officielles, fit son autocritique et paya une amende de classe 6 pour non-apposition d'avis réglementaire d'État. Ses mystérieux amis ne vinrent plus le visiter. C'est lui qui désormais allait les voir, toujours aux mêmes dates, après avoir fermé sa boutique plus tôt. L'étrangeté de M. Kornitz aurait sûrement fini par être admise si les événements n'avaient pas rattrapé cette bonne ville. Le régime augmentait sa poigne sur le pays et sa pression se ressentait partout. On ne savait pas très bien comment se comporter. La collaboration active semblait une voie indigne, mais dans un pays jugulé, défait aussi facilement que le fut le GA, qui pouvait dire ce qu'était la dignité? La résistance passait alors pour une témérité sans nom, avec son lot d'incertitudes et de peurs, sanctionnées par la victoire ou la mort. Tout était trop flou et le pays asphyxié. De plus, au tout début, elle n'était pas structurée, la résistance. Elle attendait un leader un tant soit peu pourvu de charisme. Restait alors la troisième voie, celle de l'attentisme. Elle fut choisie par les plus nombreux. Ni franche collaboration ou résistance passive, elle permettait surtout de survivre et d'espérer. La ville fut alors le théâtre d'une vague de violences inédites. Au fur et à mesure que l'étau se resserrait sur le pays, des groupes prirent les armes. La désorganisation du départ s'effaça au fur et à mesure que l'issue de la guerre se faisait incertaine pour l'occupant. Ces faits sont bien connus des historiens. Cependant, le climat qui régnait alors dans les villes tenues sous le joug doit permettre de comprendre les événements qui poussèrent certains habitants de Pé à dépasser les mesures prises par la guilde pour contenir la singularité du libraire. S'il n'a pas été possible d'en déterminer l'origine, il est établi qu'une dénonciation a été portée au service du sous-commissaire rapporteur. L'effet fut immédiat. Des hommes en noir vinrent chercher Cornix en plein milieu d'après-midi, 2 heures avant la fermeture, pour le faire monter dans une auto rapide. Tout le monde sut qu'il avait été emmené au département pour y être interrogé. Le libraire ne revint que le surlendemain. Au mépris de toute discrétion, un véhicule officiel le déposa sur la place Grande et il dut faire le chemin à pied, seul, probablement observé derrière les jalousies. Il boitait. D'abord, ce furent les inscriptions qu'il remarqua, tracées à la main sur les murs de la boutique. Elles disaient des injures. Puis il s'approcha de la porte qui était en retrait. C'est alors qu'il vit l'éclat qui avait frappé la vitre. Un éclat en étoile. Un impact. Le libraire manœuvra la poignée qui céda sans qu'il n'ait à introduire la clé. La porte, en revanche, résista et il dut s'employer pour l'ouvrir entièrement. Ses livres démembrés encombraient le sol. Alors, le libraire...
Ainsi finit le rapport de OM, enquêteur ordinaire des trois provinces, chargé des réhabilitations dont nous prenons ici l'intégralité. Au terme de nos opérations, il semble, de manière certaine, qu'une partie du dossier est irrémédiablement perdue. Caviardage volontaire, détérioration, classement déficient au sein des archives nationales, toutes les hypothèses peuvent être admises. Malgré nos recherches et la compulsion des fichiers et ressources administratives d'aide à l'enquête, il n'a pas été possible de remonter les traces de M. Cornix après ces événements. En conséquence, nous préconisons son inscription à l'état des jugements déclaratifs d'absence. Fait, ainsi qu'il est écrit, AP, LE, pour classement sans suite, signé X, agent spécialisé hors classe.
Ami,
dessous la cendre,
le feu
va tout brûler.
La nuit
pourrait descendre
dessus
nos amitiés.
Voilà que d'autres bras tendus s'en vont strier nos aubes claires. Voilà que de jeunes cerveaux refont le lit de la charogne. Nous allons compter les pendus au couchant d'une autre après-guerre, et vous saluerez des drapeaux en priant debout sans vergogne.
Ami,
dessous la cendre,
le feu
va tout brûler.
La nuit
descendre
dessus
nos amitiés.
La nouvelle chasse est ouverte, cachons nos rires basanés. Les mots s'effacent sous les poings et les chansons sous les discours. Si vos lèvres sont entrouvertes, un ordre viendra les souder. Des gamins lâcheront les chiens sur les aveugles et sur les sourds.
Je crie
pour me défendre.
Si les massacres s'accumulent, votre mémoire s'atrophie et la sinistre marée noire couvre à nouveau notre avenir. Vous cherchez dans le crépuscule l'espérance de la survie. Les bruits de bottes de l'histoire n'éveillent pas vos souvenirs.
Amis,
dessous la cendre,
le feu
va tout brûler.
La nuit
pourrait descendre
dessus
vos amitiés.
Je crie
pour la défendre.
À moi
les étrangers.
La vie
est bonne à prendre
et belle
à partager.
Amis
dessous la cendre,
le feu
va tout brûler.
Nos
amis dessous la cendre, une chanson puissante de Serge Hudger-Royo, auteur, compositeur, interprète, écrivain, traducteur, présent sur la scène depuis les années 70 et à la tête de plus d'une vingtaine d'albums. Un artiste à l'engagement total et aux multiples talents que je vous invite à vraiment découvrir. C'est par cette chanson qui fait superbement chorus avec la nouvelle de Manuel Bonneau, Un pacte, qui était à notre programme de ce dimanche soir, que nous allons prendre congé. Non toutefois, sans préciser selon la volonté du nota bene de l'auteur, que le personnage de M. Kornitz est une création littéraire empruntée à son ami Olivier Moulinet, personnage apparu dans sa nouvelle « Bruit blanc », contribution à l'éclaircissement d'un événement singulier survenu dans la ville de B. Voilà, vous savez tout. Merci infiniment à l'ami Frédéric Guillon qui a réalisé cette émission. Merci également à Louise Anne, notre talentueuse stagiaire, qui a bien voulu prêter sa voix à cette lecture. Passez une très agréable semaine sur les ondes de Bretagne 5. La plume est à vous, revient dimanche prochain sur cette même antenne. Et d'ici là, portez-vous bien.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.